Je commencerai par une histoire, celle d'un des plus grands maîtres de la tradition talmudique du deuxième siècle de notre ère. À l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva, qui était berger, n'avait jamais encore étudié. Un jour, qu'il se tenait auprès d'un puits, il constata que l'une des pierres de la margelle était particulièrement creusée. Il se demanda comment se peut-il que la pierre, dure, figée et immobile, se prête à un travail de polissage. Quand il vit les puiseurs et les puiseuses d'eau jeter leurs seaux au fond du puits et les ramener pour l'emporter ensuite sur leurs épaules, il comprit que ce polissage était le travail de l'eau, de toutes ces gouttes d'eau qui chaque jour tombaient des seaux. Il comprit que si l'insistante légèreté de quelques gouttes avait le pouvoir de sculpter et de creuser la pierre sauvage, la lecture et l'étude régulière avaient sans doute aussi le pouvoir de façonner l'esprit et le cœur humain. Immédiatement, il partit étudier. Georges Elias Sarfati, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour du Moussar, de la tradition éthique du judaïsme, devenu un mouvement au milieu du 19e siècle sous la conduite de Rabbi Israël Salanter, dont nous avons découvert la personnalité et l'œuvre la semaine dernière. Je rappelle que vous êtes linguiste, traducteur, philosophe, poète et psychanalyste existentiel. Vous avez été professeur titulaire au département de langue et littérature française de l'Université de Tel Aviv et vous êtes actuellement directeur de l'école française d'analyse et de thérapie existentielle, logothérapie, qui s'inscrit dans la lignée et poursuit l'œuvre de Viktor Frankl. Et si j'ai commencé l'émission d'aujourd'hui par l'histoire de Rabbi Akiva, c'est qu'elle éclaire le questionnement et la démarche de Rabbi Israël Salanter, dont la réflexion pratique, je vous cite, représente en somme une tentative pour donner une réponse aboutie à la question de savoir comment doter chacune et chacun des moyens de sa propre transformation psychologique et spirituelle. Compris comme un processus de transformation, le moussard, ajoutez-vous, consiste avant tout en une psychothérapie, thérapie de l'esprit, et secondairement en une psychagogie, une éducation de l'esprit. Le mot esprit, que vous choisissez pour traduire le terme de psyché, est emprunté au grec psyché, un terme qui, aujourd'hui, signifie certes esprit, mais qui signifie aussi l'âme. Le moussard est ainsi pour Rabbi Israël Salanter une thérapie de l'âme et une éducation de l'âme. Ce qui soulève deux questions fondamentales, Georges Elias Sarfati. Qu'est-ce que l'âme? Comment entendre le sens de ce mot aujourd'hui? Et s'il faut la guérir et l'éduquer, qu'entendez-vous par maladie de l'âme?
Bon, alors je vais déjà répondre à la première question, qu'est-ce que l'âme? Là, je procéderai en utilisant une définition apophatique, c'est-à-dire en évitant d'une certaine façon d'énumérer des caractéristiques positives. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la pensée biblique n'est pas une pensée dualiste et que le judaïsme professe une conception de l'unité psychosomatique de l'être humain. À partir de là, je dirais que l'âme, d'une certaine façon, ça n'est pas une entité distincte, mais c'est l'énergie qui informe ce qu'on appelle ordinairement la matière. Il y a toute une problématique de l'âme qui a beaucoup influencé les penseurs juifs, notamment à partir du Moyen-Âge, qui est la problématique d'Aristote, le traité Péripsuché de l'âme. Mais pour autant, la tradition du Moussar aborde la question de l'âme à partir de la problématique de la double nature de l'être humain, c'est-à-dire à la fois comme être matériel, physique, et être spirituel. C'est là qu'on trouve cette distinction entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov, respectivement traduit par inclination au mal et inclination au bien. Alors que dans la pensée médiévale, le Yetzer Hara désigne les désirs, les passions, la propension à la transgression de la loi, et que le Yetzer Hatov désigne l'intellect saint et la propension à la sainteté, avec Rabbi Israël Salanter, on a une véritable révolution conceptuelle, puisqu'il définit le Yetzer Hara comme la force obscure, comme l'inconscient. C'est tout à fait explicite sous sa plume. Et la force claire comme le siège de la conscience. À la fois conscience pratique, instrumentale et théorique, c'est-à-dire instance de discernement du bien et du mal, de la vérité et de la fausseté. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'âme aujourd'hui? Ce n'est pas Rabbi Israël Salanter qui reste malgré tout captif d'une terminologie traditionnelle que je vais emprunter cette définition qui est pourtant la bonne définition de l'enseignement du Moussar. Je dirais que l'âme, c'est l'ensemble de ce qu'éprouve, ressent, pense un être humain, l'ensemble de ses expériences vécues et de tous ses souvenirs. C'est une définition que j'emprunte au thérapeute Konrad Stettbacher, dans son ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la souffrance ?» et qui est extrêmement proche de la conception moussarique. Vous voyez en fait que dans cette définition, on a à la fois une dimension cognitive, l'intellectuel, l'intellect et l'imaginaire, et la dimension émotionnelle.
Vous venez de définir ce qu'est l'âme, mais qu'entendez-vous par maladie de l'âme ? Puisqu'il faut guérir cette âme par le moussard.
Tout à fait. Alors, la notion de maladie de l'âme au singulier, c'est machla nefesh, en fait, en hébreu. On trouve ça chez Ibn Gvirol, on trouve ça chez le Rambam, et au-delà, jusqu'à Rabbi Israël Salanter. Cette notion est d'abord commune à toutes les écoles de sagesse issues de la philosophie non-juive, donc de la pensée grecque en particulier, puisque la pensée grecque définit, toute école confondue, la philosophie comme une thérapeutique de l'âme. Le premier à le faire, c'est Socrate. En sorte que, de façon générale, dans les écoles de sagesse non monothéistes, une maladie de l'âme, c'est le manque de tempérance. C'est toutes les modalités du manque de tempérance. Et aussi le mauvais usage de la raison. Ça va de pair, il y a une corrélation étroite. Dans la tradition rabbinique, cependant, qui emprunte, comme je l'ai dit, aux écoles de sagesse, pour leur terminologie comme pour leur conception, la pensée juive est très proche, a longtemps été très proche, des conceptions de Claude Galien, qui distingue, lui, entre les passions et les erreurs de l'âme. C'est un philosophe indépendant du IIe siècle, assez syncrétique. Et on retrouve cette compréhension de la maladie de l'âme chez Ibn Gvirol, au XIe, XIIe siècle, mais également tout au long de la tradition du moussard individuel jusqu'à Salanter. À partir de Salanter, on a une évolution remarquable du concept, puisque d'une conception morale, qui fait que la maladie de l'âme, c'est le défaut de caractère, la colère, l'intempérance, l'excès de volupté ou la tristesse. Et on a une problématique analogue, y compris dans le traité de Spinoza, l'éthique, où il parle des passions tristes et du premier genre de connaissance. Eh bien, on passe, cher Rabbi Salanter, à une problématique à la fois morale et clinique de la maladie de l'âme. Autrement dit, pour Rabbi Israël Salanter, la maladie de l'âme, je dirais que c'est un défaut de représentation, un défaut de représentation symbolique. Et de ce point de vue-là, je dois dire que sa perspective est très actuelle. On connaît la réflexion relativement récente de Julia Kristeva dans son ouvrage « Les nouvelles maladies de l'âme ». Elle dit effectivement que le problème des modernes et des contemporains, c'est la difficulté à se représenter leur vécu, leur existence. C'est la difficulté à perlaborer. Au fond, cette nouvelle maladie de l'âme, et c'est ce qu'on appelle ordinairement la désymbolisation. Elle se traduit ou elle s'explique à la fois par la crise irréversible peut-être de certaines formes de transmission, mais également par la destruction, sinon le grand désordre qui règne dans la généalogie.
En vue de cette guérison et éducation de l'âme, Rabbi Israël Salanter va proposer des exercices spirituels qu'il est important de découvrir. Et j'aimerais, puisque vous avez évoqué cette crise de la symbolisation, que vous donniez un exemple concret, même si vous venez de dire une crise de la généalogie, mais peut-être qu'en expliquant la manière de guérir l'âme, un exemple concret serait bienvenu, Georges Elias Sarfati.
Tout d'abord, je dois faire une petite mise au point sur le fait que les exercices spirituels tels que les conçoit Salanter sont subordonnés à une certaine conception de la méditation. Alors, on sait qu'il y a une histoire assez ample de la méditation hébraïque et juive, d'ailleurs que vous avez vous-même parfaitement exposé dans votre ouvrage Tzimtzum. Et au fond, vous rappelez très justement, avec d'autres auteurs, qu'il y a une école de méditation liée à la Kabbale théurgique et une école de méditation liée à la Kabbale extatique, et notamment à la Kabbale des noms de Rabbi Abraham Aboulafia. La méditation moussarique est assez différente. Elle a des exercices spirituels spécifiques, mais je rappelle pour les auditeurs la définition qu'a donnée Pierre Hadot d'un exercice spirituel. C'est une pratique imaginaire, intellectuelle ou mnésique, destiné à la transformation de soi. Maintenant, qu'est-ce que méditer pour le moussard ? Pourquoi méditer ? Est-ce que c'est pour se détendre ? Est-ce que c'est pour prendre une distance relativement à soi ou à la réalité ? Est-ce que c'est pour atteindre à certaines formes d'extase ? Ou est-ce que c'est pour atteindre le vide ? Eh bien, rien de tout cela. La méditation moussarique, dans sa spécificité, est une préparation à la Avodat Hashem, au service de Dieu. Alors, c'est un moussard existentiel. Pourquoi l'ai-je appelé ainsi ? Parce que, pour Rabbi Israël Salanter, ce moussard pose la question du sens de la vie, du sens de l'existence. Et de ce point de vue-là, c'est une pratique d'éveil, une pratique d'éveil à l'essentiel. Il parle de itorirut, en hébreu, l'éveil, proprement. Maintenant, on a deux modèles de la méditation dans le champ biblique. On a la méditation de Yitzhak, qui sort se promener et méditer dans les champs après avoir rencontré Rivka, et le mot hébreu est la souar, qui veut dire s'entretenir avec soi-même aussi bien. Mais on a aussi le deuxième motif, qui est le Mahamad HaSinaï, la théophanie du Sinaï. Et pour Rabbi Israël Salanter, ça ne peut pas être le patriarche Isaac qui sera le paradigme du moussard pour le plus grand nombre, puisqu'il est en relation constante avec Dieu. En revanche, le moussard du Benoni, le moussard de l'homme moyen, il emprunte cette notion au Rambam, l'homme moyen, a besoin, pour s'être réveillé, pour se réveiller, de se rappeler constamment la crainte et le tremblement de la théophanie du Sinaï. Et donc c'est sur ce motif que reposent tous les exercices spirituels de Rabbi Israël Salanter.
Alors, j'ai le même problème, excusez-moi, que lors de la précédente émission, parce que j'ai l'impression que ce moussard et que ces techniques de méditation s'adressent à des gens qui sont déjà complètement engagés dans un judaïsme traditionnel, religieux, pratiquant, voire orthodoxe, et que ces techniques de méditation que vous évoquez, pourtant, quand vous avez parlé de réveil de soi et de donner du sens à sa vie, justement, comme la psychanalyse existentielle de Viktor Frankl, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement, je dirais, non seulement universel, mais qui parle à tout le monde. Alors, est-ce que c'est simplement de manière pédagogique que vous proposez cette définition de la méditation du moussard, ou c'est pour pouvoir la dépasser ensuite de manière plus universelle ?
C'est d'emblée pour pouvoir dépasser une conception restrictive de ce qu'est la méditation moussarique, parce qu'au fond, encore une fois, son standard s'adresse à tout le monde. On peut pratiquer les exercices de méditation moussarique qui, du point de vue technique, sont purement et simplement équivalents à ce que l'on trouve dans les autres écoles de sagesse. Mais si j'ai fait ce préambule tout à l'heure, c'est pour insister sur le fait qu'il y a une spécificité, une finalité de la méditation moussarique qui n'est pas celle des autres écoles de sagesse. Pour autant, les techniques sont pour ainsi dire les mêmes, mais la terminologie varie.
Alors, le but, c'est de donner du sens à sa vie, vous venez de le dire. Et quels sont ces exercices?
Oui. Le but n'est pas de donner du sens à sa vie. Oui. L'interrogation du moussard, c'est l'interrogation qui doit éveiller chez l'exercitant le sentiment de l'humilité et la disposition à la teshuva, que l'on traduit toujours improprement par repentir, qui est en fait un véritable revirement, un véritable mouvement de retour à la source cosmique, à la source divine de l'âme. Et sur cet arrière-plan, sur cet arrière-fond, les exercices spirituels sont destinés à maintenir cet état d'éveil, cet état de vigilance morale. En fait, le sentiment de l'humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. C'est un sentiment de dénuement. C'est peut-être la posture psychique la plus favorable à permettre à l'être humain de faire un retour sur lui-même et à cesser de se prendre comme sa propre origine, comme le font trop souvent les modernes. Et je pense que Rabbi Israël Salanter avait discerné, déjà diagnostiqué cette inclination-là, ce qu'il appelle le Yetzer Hara dans sa terminologie.
Et alors, en quoi consiste la méditation proposée par Rabbi Israël Salanter? Quels sont ses exercices spirituels auxquels il invite ses élèves et les personnes à qui il s'adresse?
Il y en a plusieurs. J'ai fait une petite typologie. J'ai remarqué qu'il y avait au moins 6 exercices spirituels fondamentaux. 3 que j'appellerais réflexifs, qui sont fondamentalement axés sur le retour sur soi. Et 3 que j'appellerais relationnels, parce qu'ils supposent la mise en relation de l'exercitant avec les autres. Alors, dans l'exercice réflexif, on a l'intériorisation, ce qu'il appelle la hitpa'alut. En fait, ça rappelle la notion de la hitpa'alel, de prier. Il s'agit non pas de s'adonner à la prière rituelle, mais d'appliquer à un texte de moussard le même ton de lecture et d'intériorisation que celui que l'on emploie pour la prière rituelle. Et c'est là que la hitpa'alut vérifie ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir ce qui est d'abord contenu dans cet enseignement du verset de Yov, à savoir que l'eau finit par polir les pierres. La hitpa'alut, c'est une façon, comme le dit Israël Salanter, d'impressionner le subconscient et l'inconscient et de s'acquérir une seconde nature. C'est la finalité du moussard. Quelle est cette seconde nature? Ce n'est pas la divinisation de l'homme comme dans l'hésychasme ou bien la philokalie du christianisme orthodoxe, c'est la spiritualisation de l'homme. Il en va de même pour les autres exercices. Exercice de visualisation qu'il appelle hitbonenut ayira, la contemplation de la crainte. Alors, il m'arrive moi-même de faire cet exercice assez souvent. Pratiquement, ça consiste à aller déambuler dans un cimetière. Je vous garantis que cet exercice ramène assez rapidement à l'essentiel. Enfin, il y a un exercice qui est un exercice d'évaluation de ses œuvres pour en quelque sorte discriminer la qualité morale. Ce que Rabbi Israël Salanter appelle la cheshbon olam, c'est au fond on pourrait traduire par bilan du monde, mais en réalité, c'est une évaluation de la qualité de ses œuvres, sur le plan de ce qu'elles valent sur le plan, d'un point de vue axiologique. Et puis enfin, les exercices relationnels, il y a ce qu'on appelle ordinairement le vidouille, classiquement, qui est la confession, mais qui, avec Rabbi Israël Salanter, connaît une redéfinition proprement révolutionnaire, puisque lui comprend le vidouille comme un travail d'examen analytique. On a véritablement les bases d'une psychothérapie psychodynamique. Et puis on a un exercice d'autocritique qu'il appelle Chokhmat Olam. Il s'agit, dit-il, puisque tout le monde a tendance à médire de son prochain, en effet, de garder cette acuité dans l'observation de la conduite d'autrui, mais cette fois-ci pour rapporter à soi les défauts que l'on observe chez les autres et les corriger de cette manière. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la Messirat HaMoussar, c'est-à-dire la transmission du Moussar, et qui est pour Salanter l'exercice spirituel par excellence, qui prodigue du mérite à celui qui s'y emploie. Il s'agit au fond d'un exercice de compassion et d'empathie que l'on rencontre dans les sagesses extrême-orientales notamment. Il s'agit d'aider au salut spirituel d'autrui en lui transmettant les linéaments, les rudiments du Moussar. Et pour Salanter, c'est une mitzvah. On pourrait dire qu'il ajoute cette mitzvah à la liste des 613 mitzvot que nous connaissons déjà. Oh.
Georges Lassarfati, vous avez choisi de nous faire découvrir cette mezzo-soprano dans ce passage de la Dame de Pique de Tchaïkovski. Choix inattendu dans ce contexte du Moussard et de la guérison de l'âme.
C'est en effet un choix inattendu, mais je dois dire que Eva Zajcik m'impressionne par son talent. C'est la révélation 2016 classique de la Dami en chant lyrique. Il y a dans sa voix une gravité lumineuse qui m'évoque la devise de Rabbi Israël Salanter, qui disait que tant qu'il y a de la lumière, il est possible d'œuvrer et de réparer. Et puis n'oublions pas que dans cet extrait, Eva Zajcik entonne un fragment de la Dame de Pique, cette nouvelle de Pouchkine qui nous parle des passions humaines, qui sont la véritable matière, la matière vive du Moussard. Et puis vous voyez, puisque nous avons cette occasion d'écouter Eva Zajcik, eh bien je dirais qu'il y a une dimension opératique d'opéra dans les exercices du Moussard, en plus de leur dimension proprement pragmatique, c'est-à-dire l'effet de discours qui va véritablement informer l'entièreté de l'être, le corps y compris, sa structure émotionnelle.
Ça rejoint un petit peu le premier exercice que vous avez évoqué, en disant qu'il faut, lire les textes de Moussard sur le même ton que la prière. C'est comme si on proposait de lire l'éthique de Spinoza sur un air d'opéra, de la même façon que cette mezzo-soprano chante un texte de Pouchkine concernant les passions. Donc là, on a un exercice spirituel très...
Écoutez, on le sait, il y a dans l'éthique de Spinoza des propositions qui sont intégralement celles que l'on trouve dans les Pirkei Avot. Alors on peut lire l'éthique de Spinoza avec les contraintes et les exigences formelles de l'Ahitpaalut, à condition de ne pas forcément adhérer à sa cosmologie.
Alors au-delà des liens possibles et des relations que l'on peut construire ici avec la voix d'Eva Zajcik, par exemple, le Moussard entretient des liens profonds avec des référentiels fondamentaux de notre culture moderne. Je pense en particulier à la psychanalyse et la psychothérapie, vous en avez déjà dit quelques mots, ainsi qu'à la psychologie et la psychopédagogie. Est-ce que ce sont des ponts possibles ou existe-t-il de véritables filiations, Georges Lassarfati ?
Je parlerai volontiers dans ce que vous venez d'évoquer de transmission aussi bien consciente que de transmission inconsciente. Alors vous avez déjà rappelé en me citant qu'il y avait un processus à deux étapes dans le Moussard de Salanter. D'abord ce qu'il appelle la domination de la pulsion, le kibouche à Yetzer, et puis d'autre part la rectification de la pulsion, le tikkun à Yetzer. On a effectivement ce double mouvement à la fois de psychothérapie et de psychagogie, c'est-à-dire au-delà du surmontement ou de la mise à distance des maladies spirituelles, avec le sens qu'on leur a donné à la fois ancien et contemporain, d'un véritable projet d'éducation spirituelle. Plus précisément, le Moussard me paraît entretenir des liens importants avec les référentiels contemporains. D'abord, la psychanalyse, ça me paraît assez évident. Je veux parler de la psychanalyse freudienne à cause de sa dimension psychodynamique dont on vient de rendre compte, on l'a même fait à plusieurs reprises. Mais au-delà, dans le champ de la psychanalyse que l'on a appelée post-freudienne, de très grandes affinités, notamment dans la psychanalyse d'Otto Rank, l'idée que la finalité de l'être humain, c'est la créativité et que la souffrance, la névrose, c'est l'échec de la créativité. Et puis chez Eric Fromm, cette extraordinaire distinction très pertinente sur le plan clinique et diagnostique entre ce qu'il appelle le syndrome d'avilissement d'une part et d'autre part le syndrome d'épanouissement. Il est évident que la conception de l'être humain chez Rabbi Salanter tente à privilégier le syndrome d'épanouissement, quand ça n'est pas l'apanage de milieux fermés et de milieux pathogènes comme peuvent l'être malheureusement des yeshivot, où les maîtres eux-mêmes souffrent d'une véritable impréparation sur le plan psychologique et pédagogique pour former véritablement, sans les culpabiliser et sans les atrophier, y compris du point de vue thérapeutique, une jeunesse dont ils ont la responsabilité. Et puis, sur le plan de la psychothérapie, là aussi, il me semble que le Moussard a inspiré de très beaux modèles, très harmonieux. Je pense notamment à la psychosynthèse de Roberto Assagioli, qui assigne à l'être humain un épanouissement spirituel, mais surtout à l'analyse existentielle et à la logothérapie de Viktor Frankl, qui met tellement l'accent sur ce qu'il appelle la dimension noétique, qui est en fait la dimension spirituelle, qui va de pair avec l'affirmation et l'étayage de valeurs qui sont en tant que telles de véritables valeurs. Et puis, naturellement, il me semble qu'il y a un lien très évident entre les enseignements du Moussard et puis ce qu'on a appelé la psychologie humaniste autour des travaux d'Abraham Maslow à partir des années 40, avec cette perspective d'un crescendo dans une échelle de besoins qui va des besoins les plus fondamentaux jusqu'à l'accomplissement, y compris donc axiologique et spirituel. Et puis enfin, dans le champ de la psychologie de l'éducation, et là, c'est avéré parce que c'était un homme extrêmement pieux et instruit de la tradition hébraïque. La théorie de la modifiabilité cognitive structurale de Reuven Feuerstein, avec son programme d'enrichissement intellectuel, qui présuppose la plasticité de l'esprit humain, ce qui est véritablement le postulat de l'anthropologie biblique et de l'anthropologie moussarique qu'il assume intégralement. Et puis aussi, dans un champ que je qualifierais de psychosocial, ce qu'on appelle la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et là, c'est tout à fait remarquable. Marshall Rosenberg avait une véritable culture hébraïque et juive. Et c'est en connaissance de cause qu'il a emprunté à l'axiologie hébraïque pour fonder les grandes lignes de la communication non violente. Alors, qu'est-ce que tous ces référentiels contemporains ont en commun? Eh bien, je dirais l'aptitude au changement, la plasticité mentale. Et puis finalement, ce que le constat ou la postulation qu'a très bien résumé André Neher, à savoir que la perfection de l'homme réside dans sa perfectibilité.
Alors, on sent, je pense, dans ce que vous venez de dire, la quintessence même du Moussard, même si certaines références tout au long de ces deux émissions ont été peut-être un peu complexes. Et je pense que cette question de modification, d'amélioration nous questionne d'autant plus aujourd'hui. Depuis deux émissions, en effet, nous parlons des âmes et des esprits qui s'améliorent. Le Moussard y contribue à sa façon, comme la psychanalyse, la psychothérapie que vous venez d'évoquer, l'éducation et d'autres chemins, comme la culture, prise ici dans un sens générique. Dans le même temps, les corps aussi s'améliorent grâce aux nouvelles technologies, la science des data, les algorithmes appliqués à la médecine, à la génétique, à la fabrication de l'humain par la maîtrise de séquences du génome, qui aboutiront dans quelques décennies, sans doute beaucoup moins, à la naissance d'hommes et de femmes qui appartiendront à un monde que l'on nomme aujourd'hui le transhumain, fabrication de l'humain qui se réduira peut-être surtout à un monde de corps éternel. Monde des corps qu'on maîtrise, qu'on pirate, qu'on programme, qu'on reprogramme, corps en réinvention perpétuelle, un monde qui, à l'aune de nos valeurs éthiques d'aujourd'hui, pose de très nombreuses questions. Alors si Spinoza a pu dire « on ne sait pas ce que le corps peut », on peut dire aussi « on ne sait pas ce que l'âme peut », comment le Moussard, ou autrement dit la tradition éthique du judaïsme, se positionne spécifiquement par ce rapport à cet avenir, par ce rapport à ce jour où les hommes et les femmes pourront s'auto-enfanter par clonage, vous l'avez évoqué, par exemple, comment les âmes qui s'améliorent accompagneront-elles ou pas les corps améliorés? Georges Elias Sarfati.
Vous posez une question très complexe à laquelle je vais devoir répondre très rapidement. Je dirais que, et je rappellerai que la tradition éthique du judaïsme est avant tout une tradition de pensée humaniste, et qu'elle est véritablement, à cet égard, un pôle de résistance vis-à-vis de toutes les dérives possibles de l'anti-humanisme et du post-humanisme contemporain. Le judaïsme a toujours pris la défense de la singularité personnelle et de la créativité personnelle, et de ce point de vue-là, ce sera très certainement un contre-pouvoir efficace dans la perspective d'une émergence de nouvelles formes de totalitarisme, de servitude, voire d'eugénisme racialiste ou raciste. Donc, à n'en pas douter, se pose aussi la question à supposer, et nous y sommes déjà, de toute façon, que ce scénario scientiste se radicalise, allié de plus à un néolibéralisme sauvage, parce qu'il y a des enjeux évidemment économiques qu'il ne faut jamais sous-estimer, qui vont de pair avec cet asservissement de fractions de plus en plus larges de la population mondiale. Il ne faut pas oublier que le clonage peut être le pire comme le meilleur. Le pire, c'est évidemment la fabrication en série d'individus déconnectés de toute généalogie, donc profondément désymbolisés. Le meilleur, c'est aussi la possibilité d'intervenir en profondeur et de manière définitive sur des maladies terribles qui tuent encore. Et puis quand bien même il y aurait des clones, le clone n'est pas seulement un problème génétique ou esthétique, c'est aussi un problème moral et historique. La question se pose de savoir qui éduquera les clones.
Alors, qui éduquera les clones? C'est presque d'un point de vue homophonique, on entend d'autres mots oui. Derrière. Merci Georges Elias Arfati pour Merci. Ces deux semaines passées en votre compagnie sur un sujet passionnant qui ouvre de nombreuses pistes et invite à de très nombreuses questions sur lesquelles, je suis sûr, nous serons amenés à revenir dans un très proche avenir. En attendant, je renvoie les auditeurs à votre trilogie sur la tradition éthique du judaïsme parue aux éditions Berg International. Merci encore. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Cédric Châtelus. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous pourrez retrouver toutes les informations biographiques et bibliographiques concernant notre invité, Georges Elias Arfati, sur le site de l'émission que vous pouvez podcaster, réécouter, commenter et partager, et lire avec une musique d'opéra si vous voulez. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.